jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Nos routes sont-elles dans un état lamentable? Alain a fait le 32-10. Bonjour mon cher Alain, où êtes-vous?
Bonjour Éric, je suis à Lyon. Effectivement, citoyen automobiliste, on doit dénoncer ce scandale qui devient national.
Ah ben je suis très heureux, on va commencer avec vous dans un instant parce que franchement, j'ai découvert à l'instant dans RTL, il y a un quart d'heure, que l'état des routes est une raison plus importante que l'alcool pour la mortalité au volant. Je n'en reviens pas. On n'en parle jamais, je n'en reviens pas. Avant d'en parler, c'est le rappel des titres avec vous, Céline. Céline me regarde avec des grands yeux, se dit mais qu'est-ce qui lui prend de s'énerver comme ça. Céline Landreau, le rappel des titres.
RTL vous le révélait, dès midi et demi, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, s'est trompée ce matin en évoquant en sortie du Conseil des ministres une tentative de passage à l'acte ce week-end. Aucun attentat n'a été déjoué lors de ce week-end. Pascal, week-end lors duquel, vous le savez, la sécurité avait été renforcée devant les lieux de culte alors que le plan Vigipirate lui a été rehaussé au niveau urgence attentat après l'attentat commis à Moscou. Et on rappelle que depuis 2017, 45 tentatives d'attentat ont été déjouées dans le pays. Le gouvernement qui présentait par ailleurs aujourd'hui son projet de loi sur l'agriculture, une réponse à la colère des agriculteurs qui ont manifesté ces derniers mois, texte décrié par les écologistes et les élus de gauche. Et puis attention, soyez prudents dans l'Yonne, le département est toujours en vigilance rouge au cru cet après-midi. Et on en vient autant avec vous, Peggy, puisque ça reste agité.
Oui, et je rappelle aussi que l'Aube, la Côte d'Or et la Haute-Marne sont en vigilance orange. Alors un temps instable sur les deux tiers nord du pays, changeant en tout cas entre nuages éclaircis, averses avec pas mal de vent, jusqu'à 60 km/h en rafale dans les terres, 80 sur les bords de Manche. Une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne cet après-midi. Et pour le soleil, c'est vraiment sur un tiers sud, entre le sud de la Garonne et de la région PACA. Côté température, 13 à 17 sur la moitié nord et 17 à 22 sur la moitié sud.
Merci Peggy.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Merci Peggy Broche et à demain midi Céline Landreau. J'accueille Lisa-Marie Marquez. Bonjour Lisa-Marie.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Nous avons reçu des messages sur notre
réponse. Bah oui, vous savez Eric, on a fait gagner des chocolats à nos auditeurs pour Pâques. Eh bien, les cloches sont passées avec un peu de retard chez Virginie qui a décroché son téléphone pour nous partager sa joie de les avoir reçus dans sa boîte aux lettres.
Oui, bonjour RTL, eh ben, je suis ravie. Ce matin, j'ai reçu de la part de ma chère factrice adorée ma boîte surprise de RTL avec ces fameux chocolats. Merci, c'est très très chouette et on est bien gâtés. À bientôt et encore bravo pour votre émission, c'est toujours un bonheur.
Et pour toutes celles et tous ceux qui ont gagné des chocolats sur l'antenne, si vous ne les avez pas encore reçus, pas de panique, ils sont en route, ça ne devrait pas tarder. Mais d'abord, retour dans l'actualité, notre premier sujet, l'état de nos routes qui se dégrade. Elles sont malmenées, notamment par les intempéries, elles ne sont pas assez entretenues dans certains cas. Et ce n'est pas Gilles, qui est commercial et donc toute la semaine sur les routes, qui dira le contraire. Écoutez.
Oui, alors je confirme, mais c'est pas d'aujourd'hui, je confirme que nos routes sont dans un état pour certains départements complètement déplorables. Et comme disaient certains, ou comme disent certains, c'est vrai qu'en France, on est les rois de la rustine. On met des rustines un peu partout. C'est pas ce qu'il faudrait faire. Et je peux vous garantir que certains accidents sont provoqués par l'état de nos routes. Mais ça, on en parle peu.
Eh bien justement, on va en parler. Alors notre réseau routier devient-il dangereux? L'avez-vous constaté près de chez vous? On attend vos réactions, votre opinion. Venez prendre la parole sur RTL. Nos standardistes, Margot, Azad, Enzo et le chef du 3210, Victor, attendent vos appels et vos messages.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Je reprends Alain qui a commencé l'émission il y a quelques secondes avec nous. Alain, vous êtes toujours là?
Oui, bonjour aux auditeurs.
Moi, je n'en reviens pas, je le redis, pardonnez-moi, mais quand on se prend une claque, on en parle. Tout à l'heure, Christophe Bourou, le spécialiste automobile d'RTL, nous a rappelé la responsabilité des pouvoirs publics. L'état des routes, écoutez bien, l'état des routes est la première cause de mortalité en France devant l'alcool, devant la vitesse, selon l'Observatoire National de la Sécurité Routière. Alain, c'est dingue quand même,
Oui, et là encore, c'est lorsqu'il y a un accident corporel que la gendarmerie peut classer la dangerosité et l'origine de l'accident, ce qui est rarement le cas pour les nids de poules, mais il y a beaucoup de jeunes en scooter, en vélo, qui n'arrivent pas à voir avec la pluie que nous avons eue depuis des semaines, si sous la flaque d'eau, il y a un trou, et c'est ce qui m'est arrivé, moi, avec ma voiture, même en centre-ville, dans un petit village au sud de Lyon, moins de 50 km/h, j'ai éclaté deux roues et une jante.
Non, attendez, comment ça, racontez-moi ça, à cause d'un nid de poule ?
Oui, effectivement, parce que nous avons beaucoup de travaux, des travaux qui se prolongent en longueur, on comprend pas. Et comme il y a d'autres travaux qui sont prévus, la municipalité n'est pas trop regardante si la tranchée est bien rebouchée. Or, en ce qui me concerne dans mon petit village, le scandale venait qu'il y avait un employé de la municipalité qui habite juste en face. Il y avait des balises qui, dans un virage, évitaient cet endroit qui était en travaux, qui était rebouché sommairement. Eh bien, les balises ont été arrachées une à une. L'employé municipal les a stockés chez lui, c'était visible de la route, et moi, un soir, sous la pluie, eh bien, j'ai pas vu que le trou s'était creusé en une journée, il y avait une marge de 12 cm.
Ah oui, d'accord. Et donc vous avez explosé vos deux pneus et vos jantes au passage ?
Et la jante à l'avant.
Oui.
Donc 600 euros de dégâts, là on prévient, faut tout faire, le citoyen doit tout faire. Il doit aller sur le site de la commune ou de la communauté de communes pour signaler le danger. Tout de suite, le policier municipal était là, formidable. On le prend en photo en train d'appeler le camion Ben qui vient apporter du goudron, formidable. On se dit, bon ben voilà, on a élu madame la mairesse de mon petit village. Bon, ils n'ont pas surveillé, ça peut arriver, mais au moins ils vont assumer leurs erreurs. Eh bien non, on préfère mettre de l'argent dans des cabinets d'avocats qui vont décourager les victimes. Déjà, les assureurs ne veulent déjà même plus aller en justice avec les communautés de communes, avec les départements ou avec les communes. Ils savent très bien qu'ils vont perdre beaucoup de temps et de l'argent. Donc, c'est un scandale parce que les gens n'assument pas, nos élus n'assument pas, alors que les taxes foncières augmentent.
Alors, tout à l'heure, quand vous me disiez, je l'ai signalé sur le site internet de la mairie et ils sont venus reboucher avec du goudron, vous étiez dans une espèce de fantasme idéal, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé.
J'avais fait mon acte de citoyenneté,
oui.
Mais quand je vois le lapsus...
Mais ils ne sont jamais venus reboucher, c'est ça ?
Si, ils sont venus, ils ont réparé.
Ah.
Heureusement, parce que moi, je voulais éviter qu'il y ait des suraccidents avec des
Ah bon, bah, très bien. Donc, ils ont bien réagi chez vous.
Sauf que mon assureur m'a dit non, vous allez supporter une franchise. Non, c'est pas la peine de vous retourner contre les communes parce que nous, on perd trop de temps avec ces gens-là.
D'accord.
Et effectivement, ils ont des comportements mafieux. Parce que moi, quand j'ai voulu attaquer, j'étais encouragé par une association qui est PUMSD, là, qui est l'association pour une mobilité sereine et durable présidée par Thierry Modolo de Milati. Je me suis dit, allez, je vais risquer, j'ai plus d'assistance juridique, je vais quand même risquer un peu d'argent à faire appel à un avocat. Mais quand j'ai vu que l'avocat de la partie adverse disait non, c'est dans la ville, c'est dans la commune, mais c'est une route départementale, donc faut attaquer le département. Si c'est pas le département, c'est du bonneteau. Ils vous disent c'est la commune qui est responsable. Vous attaquez la commune, on vous dit non, c'est la communauté de communes. En fait, vous perdez. J'ai préféré perdre la moitié de ce que j'avais versé à mon avocat, plus la moitié de ce que j'aurais dû verser à l'avocat de la partie adverse, ce cabinet payé par ma commune. Mais moi, quand j'ai lu, je vais voter. C'est pas pour des gens, pour accabler les victimes.
Oui.
Je comprends.
Je comprends. C'est tellement. Enfin, votre histoire est tellement banale. Voilà, ben donc ça vous a coûté, un bras.
3 000 euros d'avocat, la moitié pour mon avocat, la moitié de l'avocat de la partie adverse, avant même qu'on aille en justice, juste pour les conclusions
et les premiers,
la première lettre recommandée.
Et
la réparation de ma voiture. Je voulais un petit peu montrer l'exemple parce que j'avais déjà fait condamner dans ma vie des préfets au tribunal administratif, des constructeurs automobiles en cours d'appel à Paris, en cours de cassation.
Restez avec nous, ben mal vous en a pris parce que là, vous y êtes de votre poche. Merci pour ce très beau témoignage, Alain, très symbolique. On prendra Bruno dans un instant. Bruno, vous êtes là ?
Je suis là.
À tout de suite, Bruno.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe RTL. En ce moment, l'état des routes est vraiment lamentable, surtout en Franche-Comté, où j'emprunte régulièrement les nationales 19, 57 et 83. On se croirait sur un terrain de cross ou dans les routes des Pays de l'Est. Bonne journée à tous, au revoir.
C'est Francis qui vient de laissé ce message, un terrain de cross, de motocross, oui. Bruno a fait le 32-10. Bonjour Bruno, qui êtes-vous, que faites-vous?
Bonjour Eric, écoutez, je suis routier depuis 18 ans, avant j'étais pompier de Paris,
oui.
Et je vois que l'état des routes c'est une catastrophe, quoi, je veux dire, c'est... Alors, vous avez des routes, elles sont tellement peu larges qu'ils n'ont même pas la place pour mettre la ligne de rive sur les côtés, et nous en camion on doit se croiser, donc vous mettez une roue en dehors de la route et c'est le fossé direct, quoi. Alors en moto, je vous dis même pas, en plus je suis motard, hein.
C'est quoi le sujet? C'est l'entretien? C'est les intempéries qui bousillent?
Ah non, c'est la façon de faire, c'est l'entretien. Comme disait l'auditeur précédent, il y a deux trous. On met du macadam pour faire une bosse, et du coup, entre les deux bosses, il y a de nouveau un trou, quoi. Ce matin, j'ai raclé le pare-choc du camion, parce qu'il y avait un nid de poule avec de l'eau dedans, mais on ne sait pas si ça fait 5 cm ou 30 cm de profondeur. Donc vous mettez la roue dedans, alors vous imaginez un deux roues, un scooter ou n'importe quoi. Alors, on veut nous imposer le contrôle technique pour les motos, soi-disant que les accidents, les motos, machin, mais c'est 0,3% les accidents en deux roues qui sont dus au matériel. Plus de 90%, c'est l'état des routes. Vous avez des routes avec des ornières, on peut presque lâcher le volant, vous voyez. Ça guide les roues toutes seules.
Je vois très bien ce à quoi vous faites référence, ça arrive effectivement. Vous êtes surpris par ces chiffres que nous communiquait tout à l'heure l'Observatoire National de la Sécurité Routière.
C'est-à-dire
que la route tue davantage, la non-qualité de la route tue davantage que l'alcool au volant, que la vitesse au volant. Quand on voit toutes les campagnes qu'on fait de prévention à la radio, à la télévision, contre l'alcool au volant, et ils ont bien raison au passage, hein, contre la vitesse au volant, on pensait que c'était les premières causes de mortalité, mais non ! La route, le mauvais état des routes, tue davantage encore, et ça on en parle peu, hein.
Oui, alors déjà Edune, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, puisque on dit qu'un tiers des tués sur la route, c'est dû à l'alcool. Alors les gens qui picolent, vous dites, ah bah alors les deux tiers, ils étaient sobres, donc vaut mieux picoler, vous voyez.
Oui, j'ai entendu ça, mais ça,
bah oui,
c'est une vaste plaisanterie.
C'est comme certaines publicités. Mais je veux dire par là, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un accident de la route, si vous mourrez à l'hôpital plus de deux jours après l'accident, vous n'êtes plus considéré comme tué sur la route.
Oui, c'est vrai.
Pourtant, c'est l'accident de la route qui vous emmenait à l'hôpital, mais voilà. Donc, l'état des routes, c'est une...
Alors, des fois, alors cela dit, vous Bruno, j'ai envie de vous dire, vous êtes routier, et c'est vrai que sur les petites routes, le revêtement est souvent abîmé par des camions qui sont lourds et qui abîment davantage des revêtements, Bruno.
Ça, c'est vrai, ça je dis pas le contraire, mais le problème c'est que on n'a pas le choix, on a des itinéraires obligatoires parfois, et on est obligé de prendre ces routes-là. Mais vous prenez une ville comme Montmarault, par exemple, pour sortir de Montmarault, on est obligé de se croiser avec des camions, ils ont fait des travaux, ils ont fait des trottoirs de plus de 7 mètres de large, et ce qui fait que maintenant, quand deux camions se croisent, il faut presque replier les rétroviseurs, sinon on se cogne.
Moi, il m'est arrivé souvent de me dire, tiens, cet endroit-là, si je l'avais pris plus vite, même en ville, j'aurais eu un pépin, un accident. Laurent est avec nous. Bougez pas, Bruno. Je vais prendre Laurent, qui m'appelle de la région de Dreux, je crois. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour Monsieur Brunet, bonjour aux auditeurs. Merci pour les chocolats également, hein, comme la petite dame de tout à l'heure.
Vous avez reçu des chocolats, vous aussi?
C'est arrivé ce matin. Je vous remercie infiniment. Voilà, c'est... Il y a une boîte qui va partir chez mes parents, retraités du côté de La Rochelle, et je pense qu'ils seront ravis aussi. Vous êtes dans les petits papiers. Déjà l'année dernière, ça s'était produit, et donc vous faites deux familles heureuses. Voilà.
Ah ben ça me touche beaucoup. Souvent c'est vrai qu'on envoie les chocolats, mais on n'a jamais de retour. Alors ça nous fait plaisir.
C'est voilà, vous êtes dans les petits papiers même à La Rochelle. Voilà.
Ah très bien, Laurent. La route.
Oui, l'état des routes, c'était déjà le cas autrefois. Alors, plusieurs de vos intervenants tout à l'heure, votre sujet, et puis les intervenants là où n'ont pas dit quelque chose de différent de ce que je vais dire, c'était déjà le cas autrefois, mais ça se produit de plus en plus souvent et de plus en plus dans beaucoup plus d'endroits qu'autrefois. Moi, il y a 30 ans, j'avais une grosse machine, un deux roues avec 300 kilos de ferraille à peu près. Effectivement, le nid de poule, on vous apprend au permis moto à l'éviter, mais c'est quand vous êtes dedans que vous jugez de la profondeur. Et quand vous avez 300 kilos, votre roue se bloque et vous partez en soleil par-dessus avec les conséquences que je... que je vous dessinerai pas, mais vous risquez votre peau. Mais actuellement, non, même en voiture, on s'en aperçoit, alors qu'autrefois, les profondeurs étaient moindres. Donc maintenant, vous devez avoir l'œil sur votre compteur pour la vitesse, ce qui est normal, pour les radars, et en plus pour l'état de ce que vous avez rencontré sur le bitume.
Ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a maintenant, enfin moi je vois souvent, des nids de poules très profonds, mais vraiment très profonds, et qui restent là pendant des années.
Ah non, mais on fait du rustinage. C'est ce qu'a dit un de vos intervenants tout à l'heure, on va mettre deux rustines. Alors en revanche, je suis à côté d'un grand axe à Dreux, la Nationale 12, je ne sais pas si vous la prenez pour partir en Normandie ou autre, elle est refaite régulièrement par tronçon tous les ans.
C'est-à-dire qu'on méprise en fait le réseau secondaire.
Le réseau secondaire. Le réseau secondaire.
Plus de la moitié du réseau routier français est composé de routes communales. Voilà. Et c'est en général celles qui sont les plus mal en point, parce que les collectivités locales n'ont plus tellement d'argent pour les restaurer.
Ils n'ont plus de sous. Vous aviez eu l'année dernière, l'été, une piscine municipale. Ils avaient de la chance d'avoir une piscine municipale. Et le maire, disons, pour la maintenir ouverte que 15 jours. Ils ont du mal à se faire assurer par des compagnies d'assurance. Ça devient de plus en plus cher. Ils ont du mal à payer les frais de chauffage. Des écoles, des crèches, je leur jetterai pas la pierre, ils peuvent pas être partout.
Alors les routes,
il y a un souci.
La cinquième roue du carrosse. Merci Laurent. Bonjour Clémentine, elle a fait le 3210. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Où êtes-vous Clémentine?
À Cahors.
Oh, j'adore le vin de Cahors, moi.
Très corsé.
Vous pourriez pas m'en envoyer un peu, là? Oui, il est très corsé, mais je l'aime comme ça. Bon, vous travaillez sur la route, vous êtes...
Moi, je suis constamment sur la route. J'ai un quart de France, le quart sud-ouest.
Oui.
Et franchement, je trouve que les Français se plaignent beaucoup et je suis très surprise de ce que vous avez dit en début d'émission, parce que moi, je trouve les routes très correctes.
Ouh là 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 là, débat, je vous garde au chaud. On se retrouve dans une poignée de secondes. Voilà une Clémentine qui, un, ne râle pas, et deux, contre toute attente, nous dit que les routes françaises sont belles. Je voudrais entendre ses arguments. A tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nos routes départementales et communales sont très détériorées, mais pas uniquement à cause des conditions climatiques, mais aussi par la prolifération des camions gros tonnage empruntant ces petites routes au lieu de circuler sur les autoroutes.
Ah oui, c'est Michel qui vient de nous laisser à l'instant ce message. Oui, c'est un vrai sujet, effectivement, mais certains camions, certains poids lourds n'ont pas le choix. Ils suivent des itinéraires qui sont souvent imposés. Victor est au standard. Bonjour, mon doux Victor.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Comment va mon doux Victor?
Mais ça va bien, et vous?
Et très bien. Les standardistes, qui sont-ils aujourd'hui?
Eh bien, nous avons Margot, Enzo et Azad. Ils vous attendent au 3210.
Très bien. Avons-nous déjà reçu des messages écrits?
On a déjà des messages écrits sur notre application RTL. On commence avec Fabien à Amiens. Je suis technicien d'un petit syndicat de voirie. Le problème principal, c'est le budget alloué aux dépenses qui ne permet pas d'effectuer tous les travaux nécessaires. Bertrand à Quimper, je sens que le gouvernement va nous pondre une nouvelle taxe voirie. C'est comme ça qu'ils résolvent le problème à chaque fois. Et puis, après 14h, Eric, on en parle. Beyoncé sort un vendredi un nouvel album, mais de country.
Qui sort un nouvel album?
Beyoncé.
Beyoncé, ah oui, la country. Il paraît que c'est très à la mode en France.
Eh oui, c'est à la mode. 4 à 5 millions de Français en sont fans. Et figurez-vous qu'il y a pas moins de 2000 clubs de country en France. Alors, vous avez.
Oui, on danse tous ensemble le Madison.
Alors, le Madison, on s'est fait un petit peu épingler. Apparemment, on aura l'auditeur tout à l'heure à l'antenne.
Le Madison, c'est pas de la country.
On déclenche les foules. Vous faites partie de ces clubs et puis vous êtes fan de country. Appelez-nous au 3210.
Très bien. Allez, on revient à l'état de nos routes. Alors, Clémentine, vous êtes payée par la prévention routière, vous êtes payée par le ministère des Transports pour nous dire, Clémentine, que tout va bien, que vous qui êtes commerciale, dans le sud-ouest, les routes sont en très bon état, tout va bien, rentrez à la maison, pas de panique.
Non, mais je dis simplement que c'est très correct par rapport à d'autres pays quand vous allez en Belgique, mais c'est l'horreur.
Ah bon?
Ah, mais vous changez vos pneus tous les 6 mois en Belgique. Non, je pense qu'on se plaint beaucoup. L'état de nos routes sont vraiment très corrects. Alors après, c'est vrai que je prends beaucoup
de... Vous tournez dans quel coin, vous, comme commercial?
Un un quart de France, le sud-ouest.
De Cahors jusqu'au Pays Basque.
Toulouse, Bordeaux, Pays Basque, exactement. Voilà.
Vous allez jusqu'aux Pyrénées-Orientales, non
pas, exactement, pas, bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Vous avez
vous avez un vrai quart.
Donc après, c'est vrai que je prends beaucoup d'autoroutes. Un autre débat, moi je dirais que ça serait le prix des autoroutes, mais l'état des routes, un faux débat, voilà.
C'est intéressant. Donc, il ne vous arrive, enfin, c'est rare que vous ayez un problème sur une route nationale, on va dire, de nid de poule,
Très rare. Et pourtant, je fais 300
vous prenez
à 400
des petits axes
par jour. Alors, moins, c'est vrai que je prends beaucoup d'autoroutes, mais je prends quand même des axes, bien sûr.
Vous êtes commercial dans quel domaine?
Dans le médical.
Dans le médical, d'accord. Vous êtes déléguée médicale, visiteuse médicale pour un labo.
Commercial.
Enfin bon, je vais arrêter de vous embêter sur votre vie professionnelle. C'est pas l'objet. Très bien. Non, alors, bougez pas, parce que alors là, je suis pas certain que tout le monde soit d'accord avec vous. Alexandre nous appelle également. Il est d'où, Alexandre? Bonjour, Alexandre.
Bonjour, Eric. Bonjour à toute l'équipe. Alors, moi, je suis d'où? Je suis d'un côté de Nîmes. J'habite un petit village à côté de Nîmes et je travaille sur Nîmes.
D'accord.
Voilà.
Est-ce que vous partagez l'opinion de Clémentine? Tout va bien?
Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes, peut-être chez elle, mais alors chez moi, je pense qu'elle n'a pas dû visiter le CHU et les endroits à côté de chez nous parce que c'est catastrophique. Mmh. Et quand je vous dis catastrophique, c'est un faible mot. Comme j'expliquais tout à l'heure au standard, sur certains tronçons de route, en 6-7 mois, on en est déjà à refaire la route 7 fois. Mmh. Parce qu'on casse une première fois, on met les canalisations d'eau, on rebouche, on refait une belle route. On recasse parce que finalement, on va passer les câbles électriques aussi en dessous. On rebouche, on recasse pour la fibre optique. Et ça, c'est dans beaucoup de quartiers de Nîmes. Et après, il y a énormément de rues et de quartiers dans Nîmes où les routes n'ont pas été refaites depuis très, très, très longtemps.
Ça, c'est très intéressant parce que finalement, est-ce que la question de l'état des routes, des nids de poules, de ces crevasses, de ces fissures, de ces affaissements aussi, il y a des affaissements où on voit ce qui est sous le bitume, c'est-à-dire parfois du gravier, etc., qui prend le dessus sur la route ou sur la rue. Est-ce que c'est pas un phénomène plus urbain ou semi-urbain, Alexandre?
Alors, urbain, oui, mais semi-urbain aussi, parce que sur la périphérie de Nîmes, c'est pareil. Alors après, le désavantage, entre guillemets, dans le quartier, mais dans le coin, c'est que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, selon les personnes, dès qu'ils vont faire un trou, ils vont tomber aussi sur quelque chose qui date de l'époque romaine, gallo-romaine, antique, qu'il faut absolument garder, essayer de refaire, etc. Mais je vous dis, c'est catastrophique, madame. Enfin, je ne sais pas si c'est la dame ou une personne avant parlait de changement de pneus. Ma femme et moi, sur Nîmes, on en est à 2 trains complets, donc 4 pneus, en moins de 2 ans, sur chacune de nos voitures.
Oui, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, beaucoup. Hein.
Ah oui, à 350 euros le pneu, c'est beaucoup, oui. Je vous confirme.
Mais parce que vous faites beaucoup, beaucoup de routes, par ailleurs. Vous usez beaucoup vos pneumatiques.
Ah mais moi je suis quasiment toute la journée en voiture parce que oui. Voilà, moi je suis.
Mais dans Nîmes où vous faites des longs trajets?
Alors dans Nîmes, et ça m'arrive aussi de faire des longs trajets puisque je voyage beaucoup, j'ai été très longtemps commercial.
Oui, bah alors donc si vous usez des trains de pneus, si vous faites 70 000 km par an, ça se comprend, Alexandre, c'est pas forcément l'état des routes.
Mais quand vous changez le pneu, alors que votre pneu a à peine 5000 km, parce que vous avez, je crois qu'ils appellent ça des hernies, à force de taper les nids de poules, ça commence à faire beaucoup.
Ah oui, alors ça, c'est un vrai, vrai sujet, vous avez raison. Donc vous accusez quoi, les élus, la mairie, parce que là, c'est des problèmes d'infrastructure, d'entretien.
Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, je n'accuse personne. La seule chose que je peux remarquer, c'est qu'il n'y a strictement aucune coordination des corps de métier qui travaillent sur les routes. Parce que quand on en est à refaire 7 fois la route, parce qu'on se dit une fois on passe l'eau, ensuite on passe l'électricité, ensuite on fait la fibre optique, ensuite je ne sais pas trop ce qu'on fait, je pense que là où on a un problème, c'est au niveau de la coordination. S'ils arrivaient à tous s'ordonner, tous faire des plannings corrects, je pense qu'on n'aurait pas le problème de « on refait la route, on a
vous
des
voyez, vous voyez, ça c'est Alexandre qui parle. Vous voyez, Clémentine de Cahors, que du côté du Gard et à Nîmes, c'est pas la fête au village, hein?
Ah non, je vais pas aller sur Nîmes.
Vous êtes bien dans votre car sud-ouest pour faire votre tournée commerciale et dans le sud-est, c'est un peu moins bien. Christophe est avec nous. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Eric.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille dans une mairie. Je m'occupe de la direction de la mairie.
Ah ! Je vous garde au chaud. Mais c'est exactement ce qu'on voulait. Parce qu'Alexandre nous dit que c'est un peu la faute des élus locaux. On verra ce que vous en pensez. Qualité des routes, sont-elles dangereuses, nos routes? À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour, c'est Nathalie. Au sujet de l'état des routes, moi, il y a un truc qui m'éclate, mais vraiment qui m'éclate, c'est que vous avez des panneaux maintenant, trous en formation. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est payé et puis qui doit arpenter comme ça les routes. Moi, je trouve ça géant. C'est-à-dire que le mec, il est payé pour poser ses petites pancartes. Voilà, merci, bonne journée à tous. Au revoir.
Ah oui, trou en formation. Oui, il est payé pour poser ses petites pancartes. Bon, alors beaucoup d'élus locaux qui sont mis en cause, quoi. Que font les élus dans les villes, dans les agglomérations? Trou en formation, c'est bien beau, mais enfin, souvent les nids de poules restent, les crevasses, les fissures. Allez, Christophe est avec nous. Il m'a l'air d'être directeur général, en gros, d'une mairie, quoi. Christophe, c'est ce que vous disiez.
Exactement, Eric.
Vous êtes dans quel coin de France?
Dans le sud-ouest.
Dans le sud-ouest.
Comme Clémentine
qui nous disait, dans le sud-ouest, c'est propre. C'est bien. Enfin, elle emprunte beaucoup les autoroutes, Clémentine. Alors, oui, c'est votre responsabilité s'il y a des problèmes dans votre commune.
Alors, c'est la responsabilité, effectivement, de la collectivité. Après, moi, ce que je voulais rebondir sur ce que disait Clémentine, pour avoir effectivement été aussi à l'étranger, on se plaint de l'état de nos routes en France. Moi, je vous invite à aller dans un pays comme la Suède, où certes les autoroutes sont gratuites, mais l'état des autoroutes en Suède est peut-être encore plus déplorable que celle de nos routes communales ou départementales.
D'accord.
Dans un premier temps. En plus, ce qu'il faut voir aussi, vous parlez des agglomérations, vous parlez des grosses collectivités. Nous avons quand même plus de 36 000 communes en France, dont des toutes petites, qui ont parfois un réseau à gérer qui est important, de plusieurs kilomètres. Et forcément, vu le coût de refaire une route, le coût que représente la réception...
C'est quoi le coût? C'est combien route, le coût?
Ça peut varier, mais enfin, on va dire qu'à minima, on est pratiquement sur tout confondu, on n'est pas loin des 1000 euros du mètre linéaire.
10 000 euros?
Non, 1000 euros du mètre linéaire.
1000 euros, un mètre de route?
À peu près.
Ouais, alors effectivement, quand il y a 50 mètres, c'est pas énorme, 50 mètres, ça n'est pas anodin. Oui, c'est vrai que la moitié du réseau routier français, il y a 1 million de kilomètres de routes en France, la moitié, ce sont des routes communales, voilà, des routes communales entretenues par les communes, donc.
Tout à fait, et il faut rajouter à ça le fait que les gens l'oublient aussi, mais les routes nationales sont repassées il y a quelques années, sous giron départemental, puisque l'État a redonné les routes nationales en gestion au département. Mmh. Et c'est venu se rajouter.
Mais alors franchement, dites-le, vous faites l'impasse. Vous utilisez l'argent, je sais pas, pour la dépense sociale, pour des choses qui vous semblent peut-être plus prioritaires que l'entretien des routes. C'est ça, Christophe, la réalité?
Non, la réalité, c'est que l'entretien des routes est important. Et là où je rejoins l'auditeur précédent, c'est qu'il y a une nécessaire, effectivement, coordination à avoir. Moi, c'est dans la collectivité dans laquelle je travaille. C'est ce qu'on est en train, justement. On a une opération où on est en train de coordonner à la fois l'enfouissement des réseaux secs avec les réseaux humides, avec la réfection de la route, qui en plus est une route à vocation intercommunale. Donc on travaille aussi avec l'intercommunalité du secteur. Mais c'est pas évident, effectivement, de mettre en place ces coordinations. Mmh. Mais une fois qu'elles sont faites, on est parti pour quelques années de tranquillité. Mais je voulais aussi revenir sur une autre chose. C'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se plaignent d'avoir crevé des pneus, etc. Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce que ces auditeurs respectent bien les vitesses limites sur ces routes. Mmh. Premier point. Ouais. Deuxième point, beaucoup de ces routes sont empruntées aussi, alors qu'il y a des grands panneaux d'interdiction, je le vois dans la commune où j'habite, par des poids lourds, qui normalement n'ont rien à faire à ces endroits.
Mmh. Mais c'est ce que disait... Je crois que c'est... Bougez pas, Christophe, j'ai Gilles qui... Bon, bonjour Gilles, vous êtes avec nous, mon cher Gilles.
Oui, bonjour.
On m'a dit au standard, Victor m'a dit que vous étiez très, très remonté contre les camions, quoi.
Ben, c'est pas remonter contre les camions, c'est tous les camions qui empruntent des routes qui sont interdites au transit.
Mmh, ouais.
Et qui transitent. Et principalement des camions étrangers.
Ouais, ouais. Et ces camions, pour vous, abîment nos routes ?
Ah bah attendez, un camion, c'est 38 tonnes. Mmh. Une voiture, c'est une tonne.
Ouais.
Mmh. Maintenant, je veux bien entendre beaucoup de choses. Mmh. Mais hein, quand je vois des routes qui sont en plein de montagnes, qui s'écroulent régulièrement parce qu'il y a des camions qui passent dessus, ce n'est pas fait pour supporter de telles charges.
Oui, ouais, vous avez raison. Le camion, il faut le rappeler, c'est 38 fois plus lourd qu'une voiture. Donc, effectivement, ce n'est pas anodin. Vous avez raison de le rappeler. Hein. Vous avez raison de le rappeler. À une époque, je me disais qu'il faudrait taxer les camions pour le... Mais bon, je retire ce que je dis parce qu'il y a tellement de taxes dans notre pays que ce n'est plus possible.
Mais si les camions... Moi, je parle d'une nationale qui est parallèle à l'autoroute.
Oui.
Il n'y a que des camions étrangers dessus.
Oui. Ouais, la France est un pays de transit. Hein. Micheline est avec nous au 3210. Bonjour Micheline.
Oui, bonjour.
Que faites-vous dans la vie ?
Dans la vie, je suis entre autres maire d'une petite commune de 463 habitants.
On est où ?
À mon deuxième mandat, avec un adjoint qui est en charge de la voirie. Et je peux vous dire que ce que j'entends depuis tout à l'heure par rapport de la bouche des usagers m'horripile un peu. Parce que quand on est maire, la préoccupation prioritaire, c'est la sécurité d'une manière générale, et en particulier la sécurité routière. Donc, quelles que soient les années, quel que soit le budget, nous avons toujours consacré une part de notre budget pour la réfection et la réhabilitation de notre voirie communale.
Dans une petite ville de 460 habitants qui est la vôtre, quel est à peu près le budget voirie annuel pour réparer les routes ?
Alors globalement, parce qu'il y a deux parties, il y a le fonctionnement qui est dans la restauration de la route et l'investissement qui est dans la création ou la remise en état totale d'une partie de la voirie. Nous, c'est aux environs de 70 000 euros.
D'accord.
Cette année. En sachant que chaque année, effectivement, c'est ce que disait précédemment l'auditeur, chaque année, ce que l'on peut refaire, c'est-à-dire en investissement, c'est quelque chose de fait, quelque chose où on s'est dit ça, cette partie est faite. Moi, je suis dans un village en étoile où il y a une grande circulation. J'ai aussi des hameaux qui sont distants de la commune. Donc, on a beaucoup de routiers à faire. Et ce que j'entendais dire également tout à l'heure, c'est que, par exemple, on est sur des petites routes de campagne où les cars scolaires du département, par exemple, c'est des cars de tourisme pour faire le ramassage scolaire, se croisent. Abîme les bas-côtés. Il y a aussi une activité qui est une activité agricole avec des tracteurs.
Et les tracteurs, on ne les a pas évoqués. Restez avec nous, Micheline, passionnant le regard de cet élu. Vous êtes où, dans quel département, Micheline ?
On est dans le département qui, en ce moment, est un peu inondé. Je suis dans Lyon, petit village qui s'appelle Aiglonny, en Puisé-Forterre.
Aiglonny, restez avec nous dans le département de Lyon. Oui, on pense à vous et aux victimes des inondations, bien sûr. Micheline, très intéressant. Restez avec nous.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, c'est Philippe. Ben écoutez, je vous appelle à propos de l'émission en cours sur les voies routières. Ben, ma voie routière, à moi, elle est nickel. Hein. Il n'y a aucun souci, je suis Landeur-Pas-de-Calais. Moi, j'adore cette route française par rapport à d'autres routes étrangères. Et encore merci à la France pour cette route magnifique. Merci, au revoir.
Eh ben dis donc les amis, vous voyez qu'on n'est pas un peuple de râleurs. On n'est pas un peuple de râleurs. Quand ça va, il y a des gens qui le disent. Lui, il s'appelle routier. Il s'appelle Philippe, il est routier, pardon. Il s'appelle Philippe, il est routier. Il vient tout juste de nous laisser un message. Je voudrais prendre... Mais enfin, c'est pas parce que là, les routes qu'emprunte Philippe sont bonnes que c'est le cas partout. Hein. Grégory nous a appelé. Bonjour mon cher Grégory, vous êtes le 3210.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Bah, moi en fait, je vous explique, je suis ambulancier.
Ouais.
D'accord. Donc les routes, on y est toujours. Et lorsqu'on a des patients sur les brancards, des patients par exemple qui peuvent être âgés, des patients qu'on peut aller chercher chez eux parce qu'ils ont des fractures, et donc on leur met des attelles, mais sur les brancards, les gens, même en roulant ou pas, ils sont secoués, parce que les routes sont défoncées, on zigzague, c'est pas parce que l'ambulancier qui est devant vous qui zigzague que le gars il abuse, c'est parce qu'on évite les trous, mais tout simplement, honnêtement, c'est catastrophique.
Vous êtes dans quel coin, vous ?
Près de Lille.
près de Lille.
Oui, Roubaix, dans ce secteur, oui.
D'accord. Ah, zone rurale
Alors, zone rurale où ils sont en train de reboucher les trous parce qu'il y a le Paris-Roubaix ce week-end. Donc, ils essayent de faire un petit peu, de reboucher un maximum. Mais habituellement, voilà. Moi, j'ai une ambulance qui a 40 000 km. Elle est neuve. Elle a quoi? Elle a 3 à 4 mois. Ce véhicule, on a des patients qui nous disent rien. Mais enfin, attendez, il va peut-être falloir changer vos suspensions. On leur explique que l'ambulance est neuve et ce sont des suspensions assouplies qui, justement, sont prévues pour absorber encore plus les chocs de la route, les plaques d'égout ou alors les dodanes, bien sûr. Alors là, c'est même pas la peine. C'est marrant parce qu'il y a assez de macadam pour faire les dodanes, mais pas pour reboucher les trous. Ça, c'est assez rigolo. Et puis, j'invite la mère là, qui parlait tout à l'heure, la dame, l'élu.
Elle vous écoute, elle est là, Micheline, écoute.
Justement, bonjour madame. Alors vous personnellement, je ne sais pas, je vous connais pas, donc je peux pas vous juger, mais j'invite les élus qui, par exemple, font en sorte de pas justement réparer les routes, lorsqu'ils auront un problème médical, de monter dans une ambulance ou pour leurs parents ou pour leurs enfants, ça pourrait être amusant et je pense qu'ils verront leur façon de voir.
Ça me fait penser à une personne qui était médecin qui m'avait dit un jour j'ai fait un accident et je me suis promené en brancard allongé dans le propre hôpital où je travaille et là vu la saleté des murs et des plafonds et là vous dites oui, il faudrait que les élus prennent une ambulance pour voir que il y a vraiment des chaos et des ornières sur les routes. Micheline.
Et le pire de ça, si vous voulez, Eric, c'est que certains endroits, je vais prendre la commune de Ouanin, par exemple, cette commune-là, il y a le maire qui décide volontairement de pas refaire les routes. Une route toute particulièrement, la route du bois, enfin, les gens du secteur reconnaîtront, parce qu'il ne veut pas que les gens passent par là. Donc, ils s'amusent à mettre des sens interdits, ils s'amusent à mettre plus loin des dodanes, et les trous qui sont, ce week-end, je travaillais, je suis passé vers 19h, par là. Moi, je connais. Donc forcément, je ralentis. Il y avait un jeune couple qui était là devant. Ils ont crevé, ils ont abîmé leurs jantes parce qu'ils roulaient. Ils sont pris un trou. Attention, quand je dis des trous, c'est pas des trous de 2-3 centimètres. C'est des trous de 10 centimètres. Je leur ai dit de mettre une bouteille à l'intérieur pour faire, pour prendre une photo, pour montrer un peu la proportion. Mais c'est hallucinant de laisser des trous pareils.
Micheline, vous qui êtes mairesse, on dit, d'une petite commune de 460 habitants dans l'Yonne, Aiglenis. Vous entendez quand même ce que dit Grégory. Grégory, il n'invente pas tout ça, Micheline.
Le monsieur que j'écoute avec attention, je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Il parle d'ambulance. Moi-même, je suis partie il y a très peu de temps dans une ambulance, donc je sais exactement ce qu'il dit. Ce que ce monsieur doit quand même savoir, c'est qu'en termes de budget, ça coûte tellement cher la réfection de la voirie. Je pense que tout à l'heure, un autre élu en a parlé. C'est qu'il faut effectivement qu'on fasse des choix. Donc effectivement, il y a des parties qui sont refaites et d'autres parties qui sont simplement réhabilitées, colmatées, où on bouge que les trous, effectivement. Mais un maire n'a aucun intérêt de laisser une voirie se détériorer puisque c'est de sa responsabilité. Ensuite, s'il y a un accident matériel, et qui plus est plus grave si c'est avec des problèmes de blessures, voire plus grave. Donc effectivement, il y a des choix à faire. Et chaque année, on est critiqué parce qu'à tel endroit, la voirie n'a pas été refaite, par exemple.
Micheline, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que maire, de vous retrouver dans des attaques judiciaires de gens qui disent, voilà, ma voiture, alors, je ne parle même pas des accidents graves, mais qui disent, voilà, ma voiture, une jante, un pneu crevé, un bas de caisse qui a été touché parce que le nid de poule n'a pas été réparé. C'est de votre faute, payez.
Alors, j'ai eu deux cas effectivement, mais on n'est pas allé en justice, où deux personnes m'ont contacté. Je leur ai demandé, parce que j'étais pas sur place, de me faire une photo, l'agent communal étant allé sur place une fois que le véhicule avait été évacué, on l'avait pas vu. J'ai demandé à la personne de m'envoyer toutes les photos. On est allé sur place, je lui ai demandé de venir en mairie pour témoigner des dommages qu'il avait subis. Bon, cette personne que j'ai eu au téléphone n'a pas donné suite. suite. Peut-être qu'elle a eu ensuite un accord avec son assurance, je ne sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et là, effectivement, le maire ne doit pas se dédouaner. C'est-à-dire qu'on doit faire face à notre responsabilité. On doit écouter, aller sur place, vérifier. Parce que effectivement, moi, dans ma commune, il y a effectivement des endroits où, avec l'adjoint à la voirie et l'ensemble des membres du conseil municipal, on est confiant qu'il peut y avoir un problème. Donc l'agent communal Colmac intervient dès qu'on le voit, dès qu'on peut. On le signalise aussi avec des panneaux de signalisation qui nous sont régulièrement volés d'ailleurs. Donc vous voyez, je comprends l'usager de la route, mais l'usager de la route doit comprendre que la commune, si elle ne le fait pas, en tout cas pour ce qui nous concerne et pour nombreux de mes collègues, c'est qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent.
Voilà, c'est Micheline, maire de cette petite commune de 460 habitants dans le département de l'Yonne, qui est en ce moment d'ailleurs sous l'eau, et qui s'appelle Aiglenie. On parle dans un instant des camions, beaucoup d'appels de gens qui disent « oui, mais c'est la faute des camions, des poids lourds, des engins agricoles qui déforment nos routes, nos chaussées ». À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, Joël de l'Oise. Je suis chauffeur routier depuis des années. Mais la petite dame qui laisse un message comme quoi c'est des poids lourds qui esquintent les routes. Forcément, on ne peut pas rouler que sur l'autoroute. On est bien obligé d'aller livrer.
Eh oui, Joël, routier dans l'Oise. La petite dame, c'était Michel. Et Michel, d'ailleurs, Gilles, et puis Micheline aussi, élu de Lyon dans une moindre mesure, mais qui disent, c'est vrai que les poids lourds, les engins agricoles, les cartes de ramassage scolaire sont plus lourds qu'un véhicule. Et donc, un poids lourd, c'est 38 tonnes. Un véhicule classique, c'est une tonne. Donc, ils abîment davantage la chaussée. Alain, tiens, qui était avec nous en début d'émission, mais je crois qu'il est routier, justement, Alain. Je vous reprends,
oui, effectivement.
Alain.
Oui. Alors, je vais vous apporter quelques précisions parce que il faut savoir que le fret en Europe est confié à une vingtaine de groupes qui disposent entre 3000 et 10000 camions. Alors, quand le groupe est portugais, il embauche des routiers brésiliens, et lorsqu'il est lituanien ou polonais, ils embauchent des routiers d'Ouzbékistan, l'Afghanistan, Kazakhstan, et maintenant nous avons des Indiens qui arrivent de New Delhi. Donc, ces gens-là, ils ont des GPS voitures. Et les panneaux, c'est ce qu'ils regardent en dernier. Hein, ce qu'ils veulent, c'est aller au plus vite par la coupe en évitant de payer l'autoroute. Parce que le gestionnaire, lui, il fait ses calculs, sachant très bien qu'un routier indien est payé 1000 euros, contrairement à un Français qui va lui coûter 5-6 000 euros avec les charges. Eh bien, si ce chauffeur perd 20 minutes pour faire éviter l'autoroute pendant 20 km, à la fin de l'année, rien qu'avec ces 200 camions qui traversent la France tous les jours, il économise 400 000 euros. Rien que sur cette petite coupe qu'il a vu entre Châtellerault-Sud et Châtellerault-Nord en prenant la petite route départementale qui évite l'autoroute entre ces 20 km.
C'est énorme ce que vous me dites, c'est énorme. Ça veut dire que c'est donc ces chauffeurs étrangers ont des GPS voitures et qu'ils ne suivent pas les itinéraires recommandés obligatoires pour les camions.
Alors ça fait la fortune des dépanneurs qui viennent avec des grues, mais ça coûte moins cher de payer les assurances qui payent les dépanneurs que de payer l'autoroute en France qui est très chère à 40 centimes du kilomètre pour un camion.
Vous entendez, Micheline, c'est dingue cette histoire.
Hein, ce jeu. Oui, je voulais pas lui couper la parole, mais c'est exactement ça. On avait dans notre commune une scierie qui malheureusement a fermé après le Covid et on avait des grumiers de 44 tonnes qui traversaient notre village, mais par obligation.
Ah oui, ces grumiers, ces énormes camions avec des troncs d'arbres très longs derrière.
Ouais, voilà, et donc il y avait 44 tonnes au sein d'un village, enfin on approche au sein du village. Mais bon, il y avait cette activité qui était là, donc je veux dire, on n'est pas là pour détruire l'activité économique, l'activité agricole, c'est notre patrimoine. Donc, voilà, il faut quand même qu'on puisse tenir compte que dans certains endroits, eh bien, on a plus de dommages liés à l'activité du village ou de nos campagnes. Donc peut-être effectivement que le département, la région devrait regarder ça et peut-être affecter des budgets ou ventiler les budgets différemment que par rapport à un nombre d'habitants ou à d'autres paramètres. Moi je pense que l'activité agricole, l'activité industrielle sont des facteurs dont on devrait tenir compte au niveau des dotations. Voilà.
Et merci Micheline. Clément, Valentine, notre commercial du Sud-Ouest optimiste, qui nous dit le réseau routier est bien. Me dites pas que vous n'êtes pas tombé un jour en quittant l'autoroute sur une route secondaire, sur des camions, et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il est plus large que la route. Clémentine.
Oui, si, bien sûr, ça m'arrive, mais pas de là à m'en plaindre. Ouais. Vraiment, que ce soit les nids de poules, les camions, pour moi, je vois une route qui est correcte, qui est agréable, surtout avec le soleil qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas à m'en plaindre.
Vous êtes où là, Clémentine ? Vous êtes dans quel coin ?
Toulouse aujourd'hui.
Vous êtes à Toulouse aujourd'hui. Bon, je vous souhaite une embrasser la ville rose pour nous. Il fait beau d'ailleurs à Toulouse. Oui, vous me dites qu'il
très
fait beau.
Très beau.
Très beau. Très bien. Merci Clémentine. Merci Alain. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Gilles, Michel et Micheline à l'instant. Maire d'Aiglenie, petite commune de Lyon, et on pense bien évidemment aux habitants de Lyon qui sont sous l'eau, il y en a qui sont sous l'eau, ceux qui sont en Indre-et-Loire également, qui sont sous l'eau, donc on pense à eux très très fort, et n'oublions pas d'ailleurs que ces intempéries contribuent vraiment à détériorer notre réseau secondaire. Soyez prudents si vous êtes au volant, soyez prudents et vigilants, faites gaffe aux ornières, faites attention au nid de poule. Dans un instant, nous allons parler de ce phénomène, la danse country. Il paraît qu'il y a des milliers de clubs en France et que nous sommes près de 5 millions à être passionnés par la country, cette danse, cette musique américaine. Lui, Alphonse Richard, sa passion, c'est les faits divers. Jean-Alphonse, de quoi va-t-il être question à 14h30 dans l'heure du crime ?
Alors, mon cher Eric, aujourd'hui, je vous emmène dans une ville que vous connaissez bien, c'est Belfort.
Oui.
Avec l'affaire Stéphane Dietrich, tué à coups de couteau à l'été 1994. Il avait 24 ans. Il va falloir 20 ans pour que la famille de cet homme mette un nom et un visage sur le meurtrier. Et on va avoir la surprise d'apprendre, même si on s'est douté un petit peu au début, que c'était l'un des amis de lycée, tout simplement, de Stéphane Dietrich. Alors pourquoi cet homme qui avait refait sa vie depuis, il avait une cinquantaine d'années, il habitait le sud de la France, il était agent immobilier, pourquoi a-t-il tué 20 ans plus tôt son meilleur ami ? Eh bien, les policiers vont découvrir entre les deux hommes bien des secrets, de la jalousie, de la crainte, une espèce de haine qui a fini par exploser. C'est cette histoire que je vous raconte qui est très mystérieuse, très étonnante et bourrée d'histoires presque psychiatriques, je veux dire, que je vous raconte aujourd'hui. C'est l'affaire Stéphane Dietrich, la mort du Bois Joli à Belfort.
À Belfort.
14h30,
nous serons avec vous, bien évidemment, pour l'heure du crime. Dans un instant, cette passion des Français, la danse country. Et vous, vous pratiquez la danse country ? Appelez-nous au 3210.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
RTL, il est exactement 14h. Voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez à la une pour commencer cette mauvaise surprise. Dans un kinder, un enfant de 2 ans ingurgite par erreur du cannabis.
Ses parents avaient caché de la résine de cannabis dans la petite capsule jaune, celle qui contient en principe la surprise au milieu du chocolat. Aujourd'hui, dans un état stable, la petite fille a passé plusieurs jours dans le coma. Ses parents ont reconnu leur négligence et vont être poursuivis en justice.
Et puis Jean-Marie Le Pen, lui, a été placé sous régime de protection juridique.
L'ancien président du Front National, 95 ans, a fait l'objet mi-février d'un mandat de protection, une disposition civile qui s'apparente à une tutelle.
On va parler des pilotes d'Air France aussi qui seront en grève dans 15 jours à peu près, les 15 et 16 avril.
En pleine période des vacances scolaires qui débutent vendredi, le syndicat qui les représente entend protester contre une proposition de loi visant à limiter le droit de grève dans le secteur des transports qui doit être débattu au Sénat le 9 avril prochain.
Et puis un point tout de suite sur la météo.
Demain, jeudi, au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, le temps deviendra ensoleillé et sans pluie. Au nord de cette limite, le ciel sera encore très changeant avec nuages, éclaircies et averses. Et le vent atteindra 70 à 80 km par heure sur les côtes de la Manche.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Alors, Lisa Marie, Lisa Marie.
Je suis nulle en musique country, je dois vous le dire, Eric. Ma culture musicale sur la musique country est mauvaise, mais si on parle de musique country, c'est parce que d'abord, Beyoncé, la reine mondiale de la pop, a dégainé son premier single extrait de son nouvel album, et c'est de la musique country. Et ce genre de musique très américain a aussi ses fans en France. Près de 4 millions d'adeptes de la musique country, très exactement. Ça représente 10% de la population de plus de 18 ans. Il y a plus de 2000 clubs de country pour danser, justement. Alors moi, je pensais que le Madison faisait partie des dance country, mais nos auditeurs nous écrivent pour nous dire que non. Alors, ils vont nous expliquer tout ça.
Très bien. Là, le country, c'est absolument dingue. J'ignorais qu'il y avait autant d'adeptes
en France.
En France, oui, c'est absolument fou. Et c'est vrai que Beyoncé, c'est pas du tout sur ce registre.
Bah non, c'est la reine de la pop, normalement.
On l'entend habituellement. Hein. Géraldine a fait le 32-10. Bonjour Géraldine, qui êtes-vous? Où êtes-vous?
Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, du coup, donc je suis la présidente de l'association Dream Country qui se situe dans la Sarthe, à la Suze sur Sarthe, du coup.
Oui.
Et donc notre club a ouvert en fait en octobre 2021. Donc c'est un club qui est assez jeune. Et nous comptons 72 adhérents quand même, du coup. Donc ça a grossi d'année en année avec une majorité quand même de jeunes. Ça n'est pas destiné que pour les vieux, entre guillemets, du coup. Donc on a quand même des adhérents à partir de 13 ans, qui sont très très jeunes, du coup. C'est vrai que la plus âgée a 77 ans, mais en règle générale... les adhérents se situent au niveau de l'âge une trentaine, 35, 40 ans quand même. Du coup,
alors
c'est
on
assez
est.
Jeune.
J'ai compris. Donc on est à la Suze sur Sarthe, dans le département de la Sarthe, le Mans, à l'ouest de la France. Alors c'est une commune rurale. J'imagine que viennent faire ces personnes. Ils viennent danser, ils viennent se rencontrer, draguer. C'est un lieu de rencontre. Qu'est-ce que vous faites?
Peut-être.
Non mais qu'est-ce qu'on fait dans un club de country? On se retrouve quoi? Deux fois par jour, on danse ensemble. C'est une danse où l'on est tous alignés, c'est-à-dire qu'on est tous en groupe.
Mais c'est pas le Madison, paraît-il.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le country?
Alors, qu'est-ce qu'on fait en country? Eh bien, oui, effectivement, on se rencontre une fois par semaine au niveau pour des cours. Il y a différents niveaux justement où on apprend les bases des pas de la country et on se retrouve. C'est très convivial, c'est très on est très joyeux, on partage les mêmes chorégraphies au niveau des danses tous ensemble. Et alors draguer peut-être, je ne sais pas, il y a quand même une majorité de femmes. Nous en tout cas, on a une majorité de femmes, on a quelques hommes quand même. Donc
alors attendez.
Oui.
Bon, je vous interromps sur le plus intéressant, remarquez. Mais là, vous m'avez dit, on danse tous ensemble. Donc, c'est bien les images que j'ai en tête, que j'ai vues parfois dans des reportages, où l'on a un groupe, voilà, avec tout le monde est en rang, n'est-ce pas, et fait les mêmes mouvements sur une musique country. C'est ça, voilà, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Nous avons des pas bien définis, des chorégraphies. Et du coup, nous apprenons aux adhérents à faire la même chorégraphie sur la même musique. Et tout ça synchronisé, et c'est ça qui fait la beauté de la country en fait.
Et Géraldine, est-ce qu'il y a un code vestimentaire dans votre club de country?
Alors, effectivement, rien n'est obligatoire. Ça, on le dit bien aux adhérents, mais souvent, effectivement, on a l'éternel chapeau de cow-boy qui donne un cachet effectivement à la tenue vestimentaire, qui peut être effectivement le jean, les sandbags. Ou des bottes effectivement traditionnelles, et puis la chemise souvent à carreaux. Nous, on a une chemise avec le logo de l'association et des t-shirts aussi qui sont au logo de l'association aussi. Du coup.
Mais vous avez votre chapeau de cow-boy, Géraldine?
Oui, moi j'en ai plusieurs. Hein, donc,
J'adore ça. Et vous retrouvez combien?
Des couleurs différentes aussi.
Vous retrouvez combien de fois par mois dans le club de country de la Suze sur Sarthe?
Alors nous, les cours ont lieu du coup une fois par semaine le mardi soir. Donc on a niveau débutant, novice, intermédiaire. Donc c'est trois cours différents. Et le jeudi aussi également, où là on a un cours de style catalan.
D'accord. Ah oui, qui est pas tout à fait la même chose. Mais pourquoi ce truc s'est développé en France? Bon sang, on n'est pas au Texas. Pourquoi expliquez-vous le succès qui touche quand même des millions de Français des danses country?
Bah, moi, je pense que c'est une danse qui rassemble parce que, effectivement, on a ce code vestimentaire qui donne quand même du cachet autre que des danses plus traditionnelles. Mmh. C'est des danses qui bougent, ce sont des danses qui rassemblent effectivement beaucoup de monde. Et voilà, quand on écoute les musiques country, donc là, effectivement, Beyoncé sort son album, c'est festif, on a envie de danser. Mmh. Donc forcément, on y va et c'est encore plus beau quand on fait les mêmes pas, qu'on est tous bien alignés, en colonne, en ligne. Et c'est magnifique à voir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ne bougez pas, Géraldine. Je salue l'arrivée au 3210 de Patricia. Bonjour, Patricia.
Bonjour.
Vous êtes dans la Sarthe, vous aussi ?
Ah, pas du tout. Moi, je suis dans les Alpes-Maritimes, à Nice.
Ah, vous êtes à Nice. Et vous êtes aussi une adepte ?
Bien sûr, depuis une bonne quinzaine d'années.
Oh là 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 là, je vous garde sous le coude, vous allez me raconter ça, mesdames, messieurs. À tout de suite avec Patricia, à Nice.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet, 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
La musique, ça me porte. Après, il y a une ambiance sympathique. Et puis, le Far West. Les cow-boys.
Au début, il y a des collègues qui rigolaient. Maintenant, en plus, je vais au collège avec mes chemises à carreaux, mes chemises de country ou alors mes bijoux. Donc les gens savent que je fais de la country. Puis bon, voilà, un bonheur. Et c'est un permet de vider, vider les vannes après des fois des journées bien compliquées. Jolene, 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 please
don't take him just because you. Magnifique chanson, ça c'est Dolly Parton.
La reine de la country.
Une des reines de la country. Elle avait un look incroyable. Et Dolly Parton, cette chanson, elle raconte l'histoire de Jolene, une femme qui draguait son mec, quoi. Et alors, Dolly Parton, oui, vous êtes des millions, les amis, à pratiquer la country. On n'en parle pas assez, c'est vrai, c'est un vrai phénomène.
4 millions de personnes en France.
4 millions. Patricia est donc à Nice. Nous étions avec Géraldine il y a un instant dans la Sarthe. Patricia, vous faites, vous aussi, de la country, vous m'avez dit, depuis 15 ans ?
Oui.
Alors racontez-moi, vous rendez toutes les semaines dans un club, c'est ça ?
Ouais, nous, notre club, il y a 3 cours par semaine, donc débutants, novices et intermédiaires. Mmh. Et déjà, on se retrouve entre amis. En plus, c'est une danse aussi qui permet pour les gens qui sont seuls, qui sont célibataires ou co-orchestre, de pouvoir danser sans forcément être à deux pour danser des danses en couple ou quoi. Il y a des danses en couple aussi en country, mais voilà quoi. Et puis à la base, il faut aimer la musique country. Et c'est vrai que ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs maintenant qui disent qu'ils font de la country, mais c'est plutôt des clubs de line dance, le principe de danser en ligne. Mais eux, c'est plus sur pas de la musique country, quoi.
Oui. Et alors donc, que vous, votre truc, c'est vraiment la country.
Voilà, faut déjà aimer beaucoup la musique country. Oui. Et puis, il y a plein de nouveaux chanteurs qui sortent aux États-Unis, tout ça, qui font des concerts. Donc, évidemment, ici, en France, en Europe, même, s'il y a eu le C2C là, qui est passé à Londres ou à Berlin, où là, il y a plein de chanteurs des États-Unis qui viennent. Et c'est vrai que c'est intéressant à entendre. Et moi, j'ai des amis qui sont allés, ils sont vraiment très, très contents de voir tout ça. Mmh. Et puis après, donc, nous, on a les festivals. En bas, donc à Nice, on n'est pas loin de l'Italie. Donc, il y a un gros, gros festival à Voghera au mois de juin. Il y a
de country music.
De danse
country. Vous êtes combien quand vous dansez, quand vous êtes au maximum dans votre club à Nice de country danse?
À notre club, là, nous, on est une soixantaine.
Une soixantaine. Décrivez-moi votre tenue, votre look, Patricia, quand même. Je veux vous imaginer.
On met des bottes, hein, des bottes de cow-boy. Hein, voilà, c'est après, on a le chapeau. Bon, nous, quand on danse plus de la catalane, on a le type de chapeau un peu plus catalan. C'est pas les chapeaux colorés et tout ça. Après, bon, il y a les chapeaux en feutre, il y a tout ça. Après, les chemises à carreaux ou les t-shirts. On a les ceinturons avec le gros ceinturon devant. Il n'y a pas forcément les bandanas, il n'y a pas forcément tout ça.
Et le petit gilet parfois sur la chemise, le petit gilet sans manches.
Aussi, aussi, ouais. Mais bon, voilà, ça, des fois, ça fait partie de l'image qu'on peut avoir des danseurs de country avec les trucs à franges, les bijoux, les trucs en dentelle pour les femmes et tout ça, ou les jupettes avec des franges et tout ça. Bon, ça, c'est un certain style.
Il y en a qui aiment.
Ah oui, voilà, il y en a qui aiment et tout. Hein, et puis les festivals, ben, il y en a aussi l'été, il y en a plein partout à Saint-Agrès, principalement avec
Je découvre un monde avec tout ça.
Mais moi, Patricia, j'ai toujours pas compris la différence entre la country, vous parlez de line dance tout à l'heure, donc danser en ligne, et le Madison. Ouais. J'étais convaincue que le Madison, c'était une forme de danse country.
Non, la country, c'est, bah, je vous dis, on danse avec des bottes et tout ça, donc on tape du pied sur la piste qui est souvent en bois.
Donc mais le Madison, c'est pas
déjà,
comme ça,
ça donne des frissons. Non, ça, c'est une danse en ligne. Le fait de danser en ligne, de faire les mêmes mouvements en ligne et en colonne et tout ça.
Ne lui dites pas, moi, ça va. Vous allez me l'énerver, là. Elle fait
j'apprends,
pas du Madison.
J'apprends.
Et même en, moi, ça fait longtemps, j'avais été en Angleterre, quand on fait les voyages avec le collège et tout ça. Les Anglais dansaient même en boîte de nuit en ligne sur des morceaux de comment dire, je vais pas dire de disco à l'époque.
Ouais, mais rien à voir, oui, voilà.
En ligne, la country, c'est la musique country, c'est on danse avec des bottes, avec un chapeau, on tape du pied, souvent même dans les grands festivals, bah, il y a de la poussière qui s'élève du parquet tellement
c'est impressionnant,
ça nous donne la chair de poule, il y a des rodéos à côté,
inarrêtable Patricia,
elle est passionnée Patricia.
Attendez Patricia, je fais tourner la parole parce qu'il y a beaucoup d'appels, Jeff m'appelle de Chaland, en Vendée, alors vraiment, bonjour Jeff.
Bonjour Eric, très content de vous avoir.
Alors vous êtes aussi dans un club de country ?
Absolument, on a créé notre propre club de danse country il y a 3 ans, 2021 à Chaland. On a une centaine d'adhérents déjà. Et effectivement, il y a des balles partout dans la région. On donne des cours les lundis, mardis et mercredis. En couple aussi, on a démarré une activité couple country le mercredi. Et ça marche très bien.
Quel est votre bonheur de pratiquer cette activité ? Quelle est votre joie ?
Alors, je vais répéter sans doute et ajouter peut-être un argument qui n'a peut-être pas été cité par mes collègues. Le bonheur, c'est de pouvoir danser effectivement en ligne et colonne sans être obligé de venir à deux, même si on peut danser la country à deux. Et vous savez, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui ont considéré que la pratique de cette danse country qui oblige à prendre une chorégraphie nouvelle par morceau musical. À chaque fois, la chorégraphie est nouvelle, entretient de très très bonne manière la mémoire. C'est un
Alzheimer. C'est vrai. Et oui, puisqu'il faut retenir les pas et les reproduire.
Mais le cardio.
Et le cardio, le cardio, très bon argument.
Et le cardio, nous dit Patricia.
Donc, c'est très très important. Et pourtant, je suis dans un département, la Vendée, qui est très traditionnel, on va dire. Au niveau des danses, il y a beaucoup de danses folk traditionnelles, des fest-noz en Bretagne à côté. Et pourtant, la country l'emporte sur toutes ces danses.
Assez fou qu'à 80 personnes dans cette ville moyenne qui est Chaland, petite ville même en Vendée.
Oui, 23 000 habitants.
23 000 habitants.
Oui.
Ben voilà. Bravo. Et quelle est votre tenue, vous, votre look ?
Alors, je rejoins mes petits collègues, c'est
Santiago,
c'est chapeau, Santiago, ceinturon et jeans, bon, voilà, un bandana, des petits artifices, on n'a pas nos lassos ni nos pistolets.
Mais vous nous avez réjouis, Jeff, oui. Patricia, Géraldine, vous nous avez réjouis, et beaucoup, j'en suis sûr, découvrent la puissance et la force de cette activité, la danse country. Près de 4 millions de Français se retrouvent chaque semaine pour danser en ligne, en colonne. C'est super impressionnant, et je pensais que c'était un petit folklore comme ça, avec quelques centaines d'adeptes. Non, des millions de Français, merci à vous. Merci beaucoup. Cyprien Sini vient d'arriver.
Bonjour à tous.
Je suis sûr qu'il va en faire une chronique, lui, un de ces quatre, un jour, un soir.
Mais je l'ai faite ce matin, en fait.
Ouais, faite ce matin.
C'est pour ça que vous en parlez à midi.
Ah, mais c'est pour ça qu'on en parle. Oui, c'est à l'occasion de la sortie du bouquin de Beyoncé.
Absolument. Son livre, son disque.
Son album.
Ouais. Est-ce donc, que vous m'autorisez à ne pas vous avoir écouté ce matin?
Mais il n'y a pas de souci, Eric. Voilà. C'est juste que ça me fait rire. C'est on est peu de choses dans ce métier.
Oh, vous avez raison. Que va-t-il? Alors, peut-être que vous faites de la radio le soir également.
Également, entre 18h et 20h, je vous invite à écouter RTL. Bonsoir, c'est excellent. Donc ce soir, ben, on va parler des derniers rebondissements de l'affaire Émile, toutes ces zones encore non élucidées. On sera avec Jacques Pradel, un ami de la maison, grand spécialiste des faits divers. On recevra également un champion du monde ce soir à 19h, Bichente Lizarazu. Il sort un livre et il va nous parler de sa vie, du sport notamment, qui fait partie omniprésente de sa vie. Et on recevra en fin d'émission Hervé. Vous savez le chanteur Hervé?
Ah oui, très bon Hervé.
Il nous fera un petit live dans ce studio et il parlera surf avec Bichente Lizarazu parce qu'ils sont fans de surf tous les deux.
Il est très puissant Hervé. Hervé, ça peut devenir une grande, grande star.
Moi, c'est pour ça qu'on le reçoit. Et puis enfin, le 32-10, évidemment, pour vous inscrire au grand jeu, au grand quiz d'RTL. Bonsoir, encore un séjour superbe à gagner ce soir. Vous pouvez également appeler par SMS en envoyant bonsoir au 64 900 et vous serez peut-être tiré au sort.
Merci Cyprien. Alors, vous travaillez sur RTL, vous alors?
Absolument. Ah
oui, pas
le matin, le soir.
Exactement.
Bon, Lisa Marie, l'indice.
À l'indice, alors attends, je reste pour l'indice.
Alors aujourd'hui, un indice télescopage avec l'actualité pour deviner où se trouve notre auditrice du bout du monde. Depuis le 1er avril, le cannabis récréatif est autorisé dans le pays où se trouve notre auditrice.
Ne donnez pas trop d'indices.
Non, je ne sais pas si c'est facile, mais si vous avez trouvé...
Je vous signale que...
Vous ne comprenez pas le sens de la musique. C'est du reggae.
Légalisation.
Ah ok, d'accord.
Légalisation du cannabis. Alors si vous avez trouvé, c'est le moment de nous envoyer un message sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Nous allons voir une auditrice du bout du monde. Où est-elle? Est-ce qu'on a trouvé, Victor?
Nous partons en Allemagne et c'est Lorraine qui remporte un guide du routard.
Pourquoi en Allemagne? On écoutait une chanson en espagnol tout à l'heure, Lisa Marie.
Parce que depuis le 1er avril, le cannabis récréatif est autorisé en Allemagne, justement.
Eh bien, c'était d'espagnol.
C'était légalisation cannabis.
Légalisation.
C'était les paroles qu'il fallait écouter.
Oui, c'était les paroles. À tout de suite. On part.
L'auditeur du bout du monde.
Guten Tag, Laura.
Bonjour.
Bonjour, Laura. Quel âge avez-vous, Laura? Voix très jeune. Voix très, très jeune.
27 ans.
27 ans. Où êtes-vous en Allemagne?
À Berlin.
À Berlin. Et que faites-vous dans ce doux pays d'Allemagne?
Je suis traductrice et guide touristique en freelance.
Ah, guide touristique, ça m'intéresse beaucoup parce que pendant la pub, là, nous discutions avec Lisa Marie et on se disait, bon sang, on a souvent des appels de Français de l'étranger, d'auditeurs du bout du monde, d'Angleterre, d'Espagne, je parle de l'Europe, d'Italie, du pays de Galles, d'Écosse, d'Irlande, de Suède. Mais l'Allemagne, on a l'impression que les Français ne goûtent pas l'Allemagne, quoi. La dimension touristique, ils se disent, non, ce n'est pas un pays agréable. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça?
Alors, déjà, il faudrait peut-être différencier l'Allemagne et Berlin, parce que Berlin attire énormément de touristes. C'est quand même pour son histoire, pour sa vie nocturne. Donc, c'est vrai que je pense que les Français ne connaissent pas très bien l'Allemagne, mais par contre, Berlin attire beaucoup.
Oui. Alors, Berlin, d'abord, avant de parler de l'histoire, c'est une ville de fêtards, de clubbeurs, réputée dans l'Europe et dans le monde entier.
Oui, tout à fait. Oui, 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 il y a énormément de... Oui, oui, oui. Surtout dans des clubs célèbres comme le Berghain, très sélect, mais aussi tous ces anciens entrepôts qu'on a retransformés en clubs. Et ça, c'est la culture alternative, oui.
Ouais, la culture alternative de tous les jeunes qui viennent à Berlin pour la nuit et pour ces fêtes célèbres depuis quelques années. Mais vous avez parlé de l'histoire. Et l'histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est Stigmate, c'est Berlin-Est, le communisme, et c'est aussi le mur de Berlin, tout ça ce sont des légendes historiques dont il reste encore une fois des stigmates qui sont passionnants pour ceux qui aiment l'histoire.
Tout à fait, oui. La ville vit vite son histoire, vit vite son tourisme, et c'est vrai que il y a énormément de musées, de restes du mur à aller voir, donc c'est encore très présent dans la ville.
Que viennent voir prioritairement ceux que vous croisez comme guides touristiques, les Français qui viennent voir Berlin? Quelles sont les choses les plus essentielles pour eux à voir?
Bon, ils vont bien sûr faire un petit tour à la Porte de Brandebourg, c'est un peu obligatoire. Après, oui, le mur, ils vont faire le mémorial du mur avec une réplique de la bande de la mort. Et puis, ils vont essayer d'aller voir tout ce qui est sur la guerre. Donc là, il y a plusieurs musées explicatifs, notamment sur l'ancien Führerbunker. Donc ça, c'est vrai que ça attire beaucoup. Après, il y a des choses un peu plus légères à faire à Berlin aussi, du côté culturel. Donc il y a des châteaux, des musées d'art. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts.
Mmh. C'est un lieu que vous recommandez pour les Français. C'est vrai que c'est pas très très cher. On peut aller à Berlin assez facilement. C'est pas le bout du monde. Et vraiment, vous recommandez de venir y passer combien de temps faut-il pour visiter cette ville, pour y passer un peu pour approfondir un peu?
C'est une bonne question parce qu'effectivement c'est très grand. Moi je recommande de prendre une semaine, mais c'est vrai que parce que en plus l'été il y a les lacs. On pense pas beaucoup à la nature de Berlin, mais elle est très présente. Il y a plus d'une trentaine de lacs à Berlin et c'est vraiment très agréable de mêler vie culturelle et baignade au lac l'été.
Très
donc
bien.
Au moins une bonne semaine, c'est bien.
Merci Laura, merci 27
Laura.
Ans.
Elle m'a convaincue, hein. Je suis jamais allée à Berlin, là j'ai envie d'y aller.
Ouais. Merci Laura, moi j'y ai passé quelques jours, c'est une ville assez fascinante. Hein. Et c'est vrai que Berlin n'est pas l'Allemagne, Berlin c'est une capitale européenne majeure et qui est plein d'intérêts. Bon, eh bien merci Laura, je salue celui qui vient d'entrer dans le studio. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui Jean-Alphonse?
Alors Éric Brunet, aujourd'hui l'affaire Stéphane Dietrich, 20 ans pour retrouver le meurtrier, c'était son meilleur ami de lycée. Ça se passe à Belfort, à tout de suite.
Nous allons donc à Belfort, à tout de suite. Au revoir Lisa Marie.
À demain.